c'est qu'il y a, on va dire, le terme officiel n'est pas utilisé. Bon, bien sûr, c'est bien la Russie qui pénètre de vive force sur le territoire ukrainien le 24 février 2022, malgré le mémorandum de Budapest, le mémorandum amène à 1974, signé par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, avec l'Ukraine, et aussi la Biélorussie et le Kazakhstan. Le mémorandum prévoyait donc, dans un premier temps, accepté, le transfert des armes nucléaires des trois ex-républiques soviétiques que vous citez, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie, vers le territoire de la Fédération de Russie. Et il stipulait dans un article premier, le mémorandum de Budapest, que il y avait le respect de la souveraineté des frontières existantes, une sorte de contrepartie à la démilitarisation des frontières de la Russie. Donc, évidemment, la Russie a provoqué ce traité. Mais vu Moscou, encore une fois, on est revenu à la problématique de la menace et à la chance de l'autre. Moscou, c'est l'OTAN qui menaçait d'arriver au centre de la Moscovie, malgré les assurances données à Gorbatchev. Certes, il s'agissait d'assurances orales données par les Américains sur la non-expansion de l'Alliance Atlantique vers l'Est. Mais après avoir admis sans réaction, comme je disais, l'adhésion à l'OTAN de tous les pays d'Europe centrale, malgré le membre de Varsovie, et même les trois républiques baltes, anciennes républiques soviétiques. Voilà. Sébastopol, c'est aussi un des noms du problème. Enfin, Sébastopol, passé sous pavillon OTAN, était simplement inenvisageable. La prise de la Crimée a donc été ressentie par la Russie comme une urgente nécessité de 2014. Pourquoi 2014? Parce que c'est à l'heure où l'Ukraine, le Maïdan, basculait dans le camp occidental. Ce qui veut dire, il faut facto, que le bail de la flotte russe à Sébastopol, renouvelé, et que donc la Russie ne disposerait plus de cet unique port majeur en eau profonde, en mer Noire, et que ce même port majeur en eau profonde, en mer Noire, pourrait abriter des bâtiments de l'OTAN, voire une base permanente de l'OTAN. Il s'agissait donc d'un autant militaire, Casus Belli, pour Poutine. De plus, dans l'imaginaire russe, a été rattaché à la Russie et jamais à l'Ukraine, notamment, de l'une force au cours de l'histoire par Catherine II au XVIIIe siècle contre l'Empire ottoman, puis donc par l'Empire russe contre la France, la Grande-Bretagne, l'Empire ottoman à nouveau et le royaume de Clermont-Ardenne pendant la guerre dite de Crimée de 1854-55. Et bien sûr, contre le Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 2014, elle revient sans qu'un coup de feu soit tiré dans le monde russe. Sans qu'un coup de feu soit tiré, pourquoi? Parce qu'il y a eu ces fameux petits hommes verts, comme ils disent, comme qui étaient des forces spéciales et conventionnelles russes d'ailleurs, sans leur crime, et qui avaient saisi, pas de mille forces, saisi la Crimée. Et la marine ukrainienne, qui était très informale, bien sûr, en nombre, de matériel en Crimée, laquelle marine ukrainienne, dans sa grande majorité, est restée à quai, une petite partie qui était. Et la grande majorité, ils sont restés à quai et ils ont juste, sans qu'un coup de feu soit tiré encore une fois, changé leurs cocardes, les cocardes de leur bâtiment et de leur casquette. Ils ont mis le drapeau de la croix qu'on prendrait, de la bâtiment, etc. Donc, bien qu'habillés par la fausse rhétorique habituelle des Russes, de la persécution, voire du génocide, des Russes ethniques dans ce qu'ils appellent l'un des proches, fiscale illégale vient donc de la France, des Philippines et d'un pays de Sébastopol au profit de l'OTAN. Ça veut dire en fait que, comme je disais dans mon introduction, l'OTAN est la véritable emprise pour Poutine et son expansion de l'Est représente une ligne rouge, qui n'a cessé d'être remplie, comme vous le rappelez, la carte. Et donc, comme l'a dit notre ambassadeur aussi, il appelle à l'envie de la réforme de l'OTAN qui a donné lieu à une réaction. De Belgrade, 1999, où, sans rejoindre la région du point de vue, comme la capitale est bombardée. De la Libye, en 2011, où là, la résolution 1973 des Nations Unies admettait juste une no-fly zone, parce que les opérations militaires étaient bien au-delà d'une no-fly zone, avec la mort de la catastrophe. Et il rappelle également les facilités de transit données par la Russie elle-même, contre le mal réduit des élections de l'Afghanistan, tout le mouvement de logistique. Militaires, armement et autres, transités par les territoires de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous avions, les Occidentaux, nous avions deux bases militaires permanentes dans les grandes étroites, c'est-à-dire dans le Kurdistan et le Tadjikistan, et même un centre de transit que votre ambassadeur et votre serviteur ont sur l'ordre de Paris créé. Et tout ça, c'est parce que, comme nous le voulions, sans que le coût des Russes obtienne une quelconque contrepartie. Les gouvernements de son propre territoire et sont précarés, entre guillemets, en tout cas de ce qu'ils considèrent être comme tel. Donc, ces 10 reproches, déjà, avaient été clairement énoncés par Vladimir Poutine lors de la conférence de sécurité de Munich en 2007. Où Poutine veut sommer l'OTAN, et tout particulièrement les Américains, de mettre fin à cette politique jugée agressive. Tant que c'était une expansion sans fin vers l'Est, et que quand lui venait de gaz, il n'était pas ni récompensé, ni remercié dans ce cas. Et dès le sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008, l'Alliance Atlantique consacrée officiellement la décision de faire adhérer à terme l'Ukraine et la Géorgie, notamment à l'époque, les armées, la France et l'Allemagne étaient opposées à l'octroi du même budget particulier entre l'Ukraine et la Géorgie. Et trois mois plus tard, il a fait la guerre en Géorgie. Donc, que l'OTAN soit un vrai chiffon rouge, un vrai chiffon de ligne, c'était déjà vrai en 2007 et 2008. Donc, pour revenir aux opérations militaires sur lesquelles je ne reviendrai pas dans le détail, je ne vais pas vous raconter qui a pris quoi au coin du bois, mais l'arrivée des Russes, initialement, c'est ça que je tiens de présenter, qui ont fait l'école de guerre en Russie juste avant, qui ont terminé leur scolarité au moment de ce fait. Comme je disais, les Russes tablaient sur la tétanisation de la population ukrainienne et de la classe politique ukrainienne et tablaient sur un rapide renversement du pouvoir à Kiev. Et ils tablaient sur un nouveau Yanukovych. Yanukovych étant la politique pro-russe qui était président de l'Ukraine avant la guerre. Et puis, il y a eu, bien sûr, cette résistance impressionnante, inattendue, de l'armée ukrainienne contre l'armée russe. Contre l'armée russe, encore une fois, c'est un tas de bonnes sources, on peut dire, puisque c'est des gens qui ont, jusqu'à au moment où c'était encore le mieux possible, séjourné et étudié au sein de l'Académie internationale, c'est alors notre école de guerre. Eh bien, c'est là, bien sûr, Poutine de son côté, mais ça, c'est parce que le directeur dit, pensais que, encore une fois, l'Ukraine aurait été, comme vous le disiez, monsieur, une grosse Crimée. Et puis, quant à l'armée russe, monsieur l'ambassadeur parlait des tensions au sein de l'appareil politique et du renseignement. Mais l'armée russe, évidemment, ils sont formatés de telle façon qu'il y a un format outil. Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Je vais vous le dire comme ça. Un format outil excessif. L'essentiel est de paraître. Et de respecter la forme. Formalisme excessif. Application, béton, comme on dit dans l'armée, des schémas tactiques, le classique, hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Sans initiative. Et puis, ce qui est important, c'est l'équipe aussi, précision et manipulation. Et la dissimulation. Donc le chef veut entendre ça, on lui dit ça. Le chef veut entendre que ce soit une grosse fumée, que les Ukrainiens vont vous accueillir avec une bouquet de fleurs. On lui dit, parce qu'on sait que c'est ce qu'il attend. Et d'ailleurs, à tel point que, et bien sûr, cette désinformation est moins faible, ce mensonge institutionnalisé, bien sûr, descend de ces soldats eux-mêmes. 75% des soldats sont prisonniers par les soldats russes, donc sont prisonniers par les Ukrainiens lors de la reconquête extraordinaire. 75% des soldats russes, donc, pensaient, croyaient, déclaraient, mais je crois que c'est vrai, qu'ils participaient à une manœuvre. Alors, c'est leur avait dit, on part en manœuvre, on marque dans le BTR, et puis le. Non. Et c'est tout à fait caractéristique de bonus opérandi. Donc, ça a été le fiasco que l'on sait. Donc, évidemment, on va pour la suite. Poutine peut trouver une solution, je pense qu'il contrôle une solution, pour masquer ce qui est quand même un échec militaire initial. Et puis, il y a eu tous les épisodes. Folklorique qui n'était pas dramatique, le rôle de Wagner, la révolte qui a disparu de Prigogine, la tenue coréenne pour refouler les Ukrainiens dans la région courte, donc en Russie, pas en Ukraine. Hein. Maintenant, on est dans une guerre d'attrition, où on peut chiffrer le nombre de morts à plusieurs centaines de milliers. Avec des drones, etc. Et donc, là, la guerre évolue très, très vite. J'ai participé à 5 reprises, j'attends cet été, à la formation des troupes ukrainiennes que l'armée française instruit en Pologne. Et on voit dans le groupe, d'abord, on voit le soldat ukrainien qui. Là, je parle de la d'expression, parce que le soldat ukrainien, je vois qu'il est plus contingent, où la moyenne d'âge est de 45 ans. Voilà. Disons, de moyenne d'âge de 45 ans, dans un état physique moyen, un état de motivation en revanche remarquable. Et puis, en discutant avec eux, j'ai appris qu'ils n'étaient pas volontaires. Ils attendaient le bus ce matin pour aller à son travail d'électricien. C'était la PM, la police militaire qui passe, et là, on pense qu'ils se trouvent au centre de l'électricien. Voilà. Malgré tout, donc c'est une vraie guerre d'attrition. Et avec les interprètes que je dirige là-bas, ils créent des groupes WhatsApp entre eux, bien sûr. Et très rapidement, les groupes WhatsApp, l'effectif des groupes WhatsApp, une fois que les soldats sont retournés en Ukraine, une formation de 5 semaines, les groupes WhatsApp, hélas, s'étiolent rapidement. Du fait de Et c'est vrai pour les Ukrainiens, c'est vrai pour les Russes aussi. Je n'ai pas vu de l'absence. Je peux parfaitement imaginer que c'est parfaitement, avec la guerre des drones, etc., c'est deux parties maintenant à nous apprendre à nous, notamment dans l'usage du drone, et la provocation, et la lutte anti-drone. Ce conflit, encore une fois, a transformé l'armée ukrainienne en un outil qui souffre énormément, mais qui est extraordinairement résistant, extraordinairement inventif et extraordinairement adaptable. Les Russes le sont tout autant d'ailleurs, leur adaptabilité. Il faut les connaître, on s'en rend facilement. Sans forcément s'en féliciter, mais